France Culture.
Et le journal est présenté ce midi par Valentin Gris. Bonjour Valentin.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. Le pape François est bel et bien apparu place Saint-Pierre. Il a souhaité une bonne fête de Pâques aux fidèles malgré son état de santé dégradé. Nous serons à Rome et y reviendrons en longueur avec Constance Colonna Cesaris, journaliste spécialiste du Vatican. Pour Pâques, l'Ukraine devait voir les assauts s'arrêter, mais la trêve a tourné court et les deux camps s'accusent désormais d'avoir enfreint le cessez-le-feu. Sur place, les blessés se multiplient. Enfin, mission économie budgétaire pour le gouvernement, nouvelle piste de l'exécutif, des niches fiscales en faveur des retraités notamment. Moins d'un mois après sa sortie de l'hôpital, le pape François est bien apparu au balcon de Saint-Pierre en ce dimanche de Pâques. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour.
Cette présence de François au milieu des fidèles était jugée improbable fin mars.
Et il est bien apparu en effet 4 semaines après cette sortie de l'hôpital, mais que le pape François est fatigué. Deux apparitions, la première peu après midi pour souhaiter une bonne fête de Pâques aux fidèles, la seconde après le message de Pâques et pour donner sa bénédiction Urbi et Orbi qu'il n'a pas lu en intégralité par rapport au texte prévu. Souffle très court, visage impassible, corps immobile, c'est clairement un pape encore en convalescence que l'on a vu aujourd'hui, mais de fait, il a marqué sa présence en ce jour qui est le plus important pour les catholiques dans le calendrier. Il y a 4 semaines, personne n'imaginait qu'il puisse être là. Il est là, mais la convalescence sera encore longue et les questions sur la suite du pontificat sont nombreuses.
Et justement, quel passage faut-il retenir dans le message de Pâques dans lequel le pape a pu passer en revue l'actualité internationale ?
Alors, ce message qu'il avait signé de sa main, mais qui a été lu par le maître des cérémonies pontificales, Mgr Ravelli, pas par le pape, du grand classique, il est question de la guerre en Ukraine, de Gaza, des différents conflits dans le monde. On relèvera un appel à abaisser les barrières qui créent des conséquences économiques et politiques. Et c'est intéressant parce que cet appel que l'on peut entendre comme une critique de la politique de Donald Trump, il l'a prononcé alors que, par surprise, il a reçu ce matin au Vatican à 11h30, pendant la messe de Pâques à laquelle il ne participait pas, le vice-président américain J.D. Vance, un entretien très court, quelques minutes, précise le Vatican, juste pour échanger des vœux au moment de Pâques, signe que les dossiers internationaux n'ont pas été évoqués entre ces deux hommes qui ont des conceptions tout à fait différentes de la religion.
Merci beaucoup Bruno Duvic, correspondant de France Culture à Rome. Et on discute de cette prise de parole très courte avec l'invitée de ce journal, Constance Colonna Cesaris, journaliste indépendante et réalisatrice spécialiste du Vatican. Bonjour madame.
Bonjour.
Première petite question sur cette prise de parole justement et sur les sujets évoqués par le pape. Quelle est votre réaction sur ces propos, qu'ils soient à propos de Gaza par exemple ou de la lutte contre l'antisémitisme ?
Alors écoutez, comme le disait votre correspondant à l'instant, on est quand même dans du classique, hein, mais en même temps on reconnaît les accents du pape François dans les thèmes évoqués, comme d'ailleurs lors de l'homélie, comme d'ailleurs vendredi dernier lors du chemin de croix, où on reconnaît toujours, c'est un pape qui a un sens de la formule, hein, des formules très personnelles qui lui appartiennent. Il avait notamment parlé encore une fois des victimes de l'économie qui tue, ça c'était vendredi soir, d'un monde en pièces, hein, d'un monde mis en pièces. Donc on reconnaît quand même ces accents, évidemment cette volonté d'apparaître, que l'Église apparaisse comme équilibrée entre la protection des Arabes chrétiens et notamment des populations chrétiennes à Gaza qui souffrent le martyr et les populations israéliennes qui doivent elle aussi être défendue et notamment de l'antisémitisme. Donc on a vu les trésors d'équilibrisme hein, déployés pour paraître pour que le message de paix Urbi et Orbi paraisse juste, équilibré, qu'il fasse un peu le tour d'horizon des conflits les plus chauds. J'ai retenu aussi quand même cette attention, ce focus sur le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est intéressant parce que très récemment, un membre de la hiérarchie orthodoxe arménienne a déclaré, en fait, a accusé l'Église catholique, donc le Vatican, d'être en faveur de l'Azerbaïdjan. Donc là, on est dans un contexte où le Vatican s'est défendu, voilà, de quelque chose qui est encore une atteinte, hein, contre des chrétiens, les chrétiens arméniens, mais qui souffrent beaucoup aussi, comme en Syrie, au Liban, en Ukraine, etc.
Oui, on sait, autre actu forte ce matin, Bruno Duvic l'a rappelé, que le pape a rencontré J.D. Vance, le vice-président américain. C'était un petit peu inattendu. Qu'est-ce que ça raconte justement du mandat du pape François et de ses ambitions d'un point de vue géopolitique, et aussi des relations peut-être avec les États-Unis, avec cette nouvelle administration très fermement catholique mais assez opposée à Rome?
Oui, d'une vision du christianisme qui est radicalement opposée à celle du pape François. Le pape François, c'est un christianisme de la fraternité, hein, c'est ça son message, des évangiles. Et au contraire, J.D. Vance, Donald Trump ne veulent pas des migrants, ne veulent pas accueillir un étranger, hein, qui ne serait pas membre de la famille chrétienne, de la communauté. C'est ça leur utilisation, leur instrumentalisation, faudrait-il dire, hein, de ce qu'on appelle l'ordo amoris, qui est une espèce de pensée, enfin de saint Augustin qu'ils ont, que J.D. Vance fait sienne, hein, pour délivrer des messages, et notamment des messages anti-migrants aux États-Unis. Donc on est vraiment dans deux visions radicalement opposées, mais néanmoins cette visite à Rome pendant les fêtes de Pâques, du vice-président américain, mais elle a été couronnée d'une audience, hein, que lui a accordé le cardinal Parolin et Monseigneur Richard Gallagher, qui est le ministre des Affaires extérieures de l'Église. Donc ils ont parlé, ils ont pu mettre les dossiers qui fâchent à plat. Et de surcroît, maintenant, on apprend que même si ça a duré qu'une minute et que c'est un symbole, hein, quelques instants, eh bien le pape a fait l'effort de recevoir cet homme, signe qu'il faut, de toute façon, le Vatican est pragmatique, il faut établir un dialogue avec cette, oui, administration. Donc voilà, c'est la position de l'Église, c'est toujours la diplomatie de l'Église.
Une dernière question rapidement sur l'état de santé du pape, qui posait beaucoup de questions. Il a annulé certains événements comme le chemin de croix ou la veillée pascale, qui a été déléguée à des cardinaux hier soir. Qu'est-ce que raconte cette apparition, et Bruno Levic l'a encore l'a décrit, cette apparition très marquée du pape François?
Pardon, je n'ai pas entendu la question.
Je vous demandais ce que pouvait évoquer cette apparition du pape en termes du reflet de son état de santé. Qu'est-ce que ça raconte sur son état de santé, cette volonté d'apparaître et en même temps le fait d'être très marqué? Qu'est-ce qu'on peut attendre pour les mois qui viennent, qui vont être chargés? C'est une année de jubilé aussi.
Exactement, il y a un calendrier liturgique qui est très très important, avec le jubilé, comme vous le dites, qui va se dérouler encore jusqu'à la fin de l'année, des réunions presque tous les samedis sur tous les thèmes possibles et imaginables. Il y a aussi le 27 avril prochain un grand événement pour l'Église catholique à travers une canonisation dont on a peu entendu parler en France, mais qui est très importante en Italie, d'un jeune homme, Carlo Acutis, qui est mort à 15 ans en 2009. Donc voilà un nouveau saint moderne pour l'Église, avec des photos de lui en jean et en basket, et quelqu'un qui avait consacré sa courte vie à être un geek de Dieu, comme on l'appelle, à être un influenceur de la foi catholique. Et cette canonisation, elle sera très importante. On y attend, on y espère aussi le pape François, en tous les cas l'Église et les pèlerins et les fidèles le souhaitent. Donc voilà, c'est très chargé, il veut apparaître, on voit cette volonté de continuer à gouverner, de continuer à incarner surtout sa fonction, hein, de pape, qui est cette image, cette apparition. La voix n'y est pas. Alors, on le savait, à la sortie de l'hôpital, cette rééducation, hein, de la voix, due à ses problèmes respiratoires, va être longue, et c'est une faiblesse évidente, bien sûr. C'est un pape qui ne peut plus ni voyager, parce qu'on doute qu'il revoyagera bientôt, ni pour l'instant s'exprimer. Donc un état de faiblesse évidemment marqué.
Merci beaucoup Constance Colonna Cesari. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendante et réalisatrice spécialiste du Vatican, et merci à Louise Guérin pour la préparation. Ce n'était donc qu'une impression générale de cesser le feu en Ukraine. Les mots du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui dénombre ce matin plus de 300 bombardements et 19 assauts dans la soirée de samedi. Vladimir Poutine avait pourtant déclaré hier une trêve le temps du week-end de Pâques. En pratique, les conflits se sont poursuivis. Moscou accuse l'Ukraine d'avoir également continué les attaques. Le Kremlin semble avoir surtout donné des gages à l'administration américaine, laquelle réclamait vendredi des progrès rapides dans les discussions engagées séparément avec les deux camps. Moscou avait alors repoussé l'idée d'un cessez-le-feu de 30 jours, idée que continue de porter le camp ukrainien. Et sur le front, un fléau ne cesse de croître, celui des amputés, civils et soldats aux membres arrachés lors de frappes russes et de combats. Ils sont plusieurs dizaines de milliers, les chiffres oscillent entre 25 et 50 000 personnes, à avoir perdu une jambe ou un bras. Depuis 3 ans, le système de santé ukrainien tente de s'adapter pour leur rééducation, avec l'aide d'entreprises françaises comme dans cet hôpital de Kiev où se sont rendus nos envoyés spéciaux en Ukraine, Faustine Kalmel et Gilles Gallinaro avec Yachar Fazilov.
Ses béquilles contre le mur, Artem Yavkochenko est assis devant 3 écrans. Sur celui du milieu, une image de sa jambe droite, celle qu'il a perdue dans une attaque de drone sur le front en octobre dernier.
Je sens que j'ai une jambe, mais comme si elle était en plâtre et rigide.
Une sensation que ce militaire de 39 ans travaille à faire disparaître grâce au matériel envoyé par la Société française de santé.
C'est un système qui aide nos patients à diminuer la sensation de leur douleur fantôme.
Xenia, interne en médecine, explique que le patient stimule sa motricité et son cerveau pour que disparaissent les symptômes. Artem espère récupérer rapidement.
Dans 6 mois, j'aurai une prothèse. Et quand je serai avec cette prothèse, j'espère voyager un peu, me reposer de tout ça.
Ici, la guerre a bouleversé les équilibres. Les patients amputés devenus bien plus nombreux. Mariana Brovchenko, chef du département de rééducation, ne s'y habitue pas.
On pense qu'avec les prothèses, ils reviennent à la vie normale, tout va bien. Mais non, vivre avec une prothèse, c'est très compliqué. On est tous traumatisés psychologiquement et on subira des conséquences à long terme.
Il faut que cette guerre s'arrête maintenant, poursuit la médecin. Nous sommes en train de perdre nos meilleurs enfants et l'avenir de l'Ukraine.
Faustine Kalmel en Ukraine avec Gilles Gallinaro. Un silence complice et une suspension pour Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Le Parti du Peuple et pour la reconstruction et la démocratie ne pourra plus exercer ses activités politiques. Décision venue de Kinshasa. Le président Félix Tshisekedi reproche à l'ancien dirigeant de ne pas condamner l'offensive du M23 dans l'Est et l'accuse de préparer une insurrection. Kabila avait d'ailleurs annoncé son retour en RDC cette semaine avec un passage par cette même région et notamment par la ville de Goma. Le gouvernement de François Bayrou s'est mis en quête de son côté de quelques 40 milliards d'euros d'économies pour le budget 2026. Parmi les pistes envisagées, quelques rabots parmi les niches fiscales. Leur coût est estimé à plus de 83 milliards d'euros en 2024. Et la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, cherche à s'y attaquer. Héloïse Weiss, bonjour.
Bonjour.
La ministre affirme auprès du journal Le Parisien vouloir supprimer au moins 50 d'entre elles sur les plus de 460 existantes. Et elle n'écarte pas la suppression de l'abattement fiscal pour les retraités.
Car ce n'est pas l'âge qui doit définir votre contribution, selon Amélie de Montchalin. D'autant que cet abattement fiscal de 10% sur les pensions et les retraites fait partie des dépenses fiscales les plus coûteuses, derrière le crédit d'impôt en faveur de la recherche et celui de l'emploi d'un salarié à domicile. Conséquence, le MEDEF et même le président du Conseil d'orientation des retraites appellent déjà à la suppression de cet abattement. Pour eux, il est anormal que les retraités bénéficient d'une exonération fiscale pour des frais professionnels. Or, c'est un amalgame pour l'UNSA retraité. Claude Lassalvi en est le secrétaire général.
Nous, on a un plafonnement qui est à 4 321 euros, alors que celui des actifs est à 14 171 euros. Pour l'origine, si vous regardez le code des impôts, et on n'a jamais mentionné la notion de frais professionnels concernant les retraités, c'était pour équilibrer un petit peu cette perte de pouvoir d'achat des retraités au moment du passage à la retraite.
Et si la fin de cet abattement peut augmenter la contribution fiscale de plus de 8 millions de retraités, cette suppression serait injuste pour les plus pauvres, poursuit le secrétaire général de l'UNSA retraité.
Nous, ce qui nous paraît injuste, c'est qu'elle commencerait à frapper les retraités autour de 1 500 euros de retraite et qu'elle rendrait, d'après ce que nous ont dit certains économistes, 500 000 retraités qui sont actuellement exonérés de fiscalité, elle les rendrait imposables.
Pour le syndicat, l'une des solutions, c'est plutôt d'imposer davantage les retraités les plus aisés et notamment leurs revenus liés au patrimoine.
Merci beaucoup Héloïse Weiss, journaliste pour France Culture. Après de multiples retards, EDF a cette fois 2 jours d'avance. Le EPR de Flamanville a été raccordé au réseau hier. Le réacteur normand était à l'arrêt depuis le 15 février. Ces 2 derniers mois, EDF a remédié à plusieurs problèmes techniques, notamment concernant le circuit de refroidissement. Arrivé à pleine puissance, attendu pour l'été 2025 selon l'opérateur public. On termine avec un mot du temps, très nuageux à l'ouest et pluvieux de Reims à Biarritz, plus ensoleillé sur un quart sud-est. Comptez entre 11 degrés à Limoges et 18 à Montélimar. Merci d'avoir suivi ce journal. Il était préparé par Axel Dubois et réalisé par Noé Chabanne.